Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, Stéphane Carpentier, le journal d'Alexandre de Saint-Aignan.
Bonjour Alexandre.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Toute l'actualité de ce samedi est d'abord Julian Alaphilippe, toujours plus jaune avant d'attaquer le Tourmalet.
Le cycliste français a consolidé sa place de leader hier en remportant la 13e étape du Tour de France lors du contre-la-montre individuel. Il dispose désormais d'une minute 26 d'avance sur le britannique Geraint Thomas avant l'ascension du col du Tourmalet cet après-midi. Nicolas Georgerot, ce maillot jaune qu'il a déjà perdu puis retrouvé, semble finalement collé à la peau de Julian Alaphilippe.
Oui, il défie la logique.
C'est juste incroyable jusqu'à maintenant.
Julian Alaphilippe était donné battu. Il a repris du temps hier à l'un des meilleurs rouleurs du peloton. Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour, impressionné par l'allure du coureur de Montluçon dans son mano à mano avec Geraint Thomas.
Quand on arrive sur les 8 derniers kilomètres où il y a vent de face avec du plat, il lui reprend du temps. Et ça, c'est qu'il a de la force encore dans la jambe. Hein.
Il ne voit pas plus loin que l'étape du jour. C'est le Tourmalet tout à l'heure et il s'enfuit de montagne.
Il ne faut pas rêver, voilà, c'est complètement différent de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Donc je pense qu'il y aura vraiment du mouvement, quoi qu'il arrive. C'est difficile de faire mieux là.
Est-il sans limite? Peut-il rêver tout haut de l'expo à Paris? Charlie Mottet, ancien maillot jaune, quatrième du Tour en 1987, n'est pas loin de le penser.
Je pense qu'il y en a pas mal qui vont se poser des questions, notamment ses adversaires directs. Julian, il est bel et bien là, il faudra compter sur lui. On peut vraiment se poser la question, va-t-il aller au bout?
Paris est encore à 1272 km et le programme donne le vertige. Le Tourmalet n'est que le premier des 7 sommets à plus de 2000 mètres qui restent à escalader.
Nicolas Georgerot sur la route du Tour pour RTL, 14e étape cet après-midi entre Tarbes et le Tourmalet, 117 km 500, épreuve de montagne à suivre toutes les demi-heures sur RTL dès le début de la course. Notez qu'il ne reste plus que 8 jours avant l'arrivée sur les Champs-Élysées.
La célèbre avenue parisienne recouverte de drapeaux verts et blancs hier soir à l'issue de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations.
Victoire 1-0 pour l'Algérie contre le Sénégal. Les supporters sont descendus dans les rues de nombreuses villes françaises, notamment à Marseille où il y a une forte communauté algérienne, mais aussi à Strasbourg, à Toulouse, à Lille. L'ambiance est restée festive malgré quelques incidents à Lyon ou à Paris. Le ministère de l'Intérieur rapporte 198 interpellations la nuit dernière, essentiellement dans la capitale. C'est la deuxième fois dans leur histoire que les Fennecs remportent la Coupe d'Afrique des Nations. La finale avait lieu au Caire, en Égypte. Une victoire sur le plan sportif, mais aussi sur le plan politique. Karim Baldé.
Vive l'Algérie, scande le virage acquis à la cause des Fennecs. Au coup de sifflet final, les joueurs se précipitent vers les supporters, à l'image du milieu de terrain Ismaël Benasser.
Nous, on fait ça premièrement pour le peuple, pour nos familles, pour le peuple en Algérie, surtout avec ce qui se passe en Algérie en ce moment. J'espère qu'on les a rendus fiers, parce que nous, en tout cas, on est fiers. On est fiers d'avoir un peuple comme ça.
Une communion riche en symboles, tant l'équipe nationale a régulièrement soutenu les manifestants. Football et politique ne font qu'un. Confirmation du président de la fédération, Kéredine Zetchi.
C'est aussi sous l'impulsion de cet extraordinaire élan populaire, qui est en train d'emmener l'Algérie, inch'Allah, vers des jours meilleurs.
Lapsus révélateur, en tout cas la ferveur n'est pas prête de retomber. La star Riyad Mahrez peine à réaliser.
Bah là on se rend compte un peu, mais je pense que c'est déjà en rentrant en Algérie, on va voir un peu.
Un peu, beaucoup à la folie, le retour des nouveaux champions d'Afrique au pays s'annonce extraordinaire.
En Égypte pour RTL.
Vous restez bien avec nous dans un instant. Un document RTL poignant, le témoignage de la policière dont le fourgon avait été caillassé par des gilets jaunes. C'était en février dernier à Lyon. Eh bien, elle s'exprime pour la première fois.
RTL Matin.
Albert. RTL Matin, 8h06, la suite du journal, Alexandre de Saint-Aignan et Stéphane Carpentier.
Et donc un gilet jaune condamné à un an de prison ferme et 16 mois avec sursis pour avoir caillassé un fourgon de police.
Ça s'était passé près de Lyon en février dernier, une agression très spectaculaire dont les images avaient fait rapidement le tour des télés et des réseaux sociaux. Le jeune homme condamné hier soir avait sauté sur le véhicule. C'est un anarchiste récidiviste. Les autres gilets jaunes qui avaient participé à cette attaque n'ont pas encore été retrouvés. Au volant du fourgon, deux policiers, dont une jeune femme. Sous le choc, elle avait fini en pleurs. 5 mois plus tard, Marine témoigne pour la première fois sur RTL.
Pour moi, ça a été difficile parce que ça a été un acte traumatisant dans le sens où on a ressenti une réelle atteinte en fait à notre vie, clairement, parce qu'on a été attaqué avec violence. Ça a été quand même assez violent. On voit arriver avec une grosse détermination sur le capot de notre véhicule, donc c'était volontaire et il était très conscient de ses actes et voilà.
C'est toujours traumatisant pour vous quelques mois après.
C'est une affaire qui restera de toute façon dans ma tête, je pense, jusqu'à la fin de ma carrière. C'était la première fois que je subissais un caillassage comme ça. Et voilà, c'est, ouais, ça fait peur parce qu'on a peur que ça recommence. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe contre les forces de l'ordre, ben, c'est pas facile tous les jours. Après, j'ai eu un suivi psychologique, donc ma famille, mes collègues qui m'ont aidé, j'ai été bien entourée. Et voilà, et aujourd'hui, ça va aller. Il faut se sortir de la tête, quoi. Mais il faut que l'affaire soit close et que justice soit faite pour pouvoir oublier.
Propos recueillis par Frédéric Perruche pour RTL. Une première victoire pour François de Rugy. Les dîners polémiques de l'ancien président de l'Assemblée nationale étaient tous professionnels. C'est ce qu'affirme une source proche de l'enquête en cours, dont le rapport doit être publié mardi prochain. Retour aux faits, se félicite François de Rugy sur Twitter, tandis que le journaliste de Mediapart qui avait révélé la polémique, Fabrice Arfi, lui, qualifie cette conclusion de blague. C'est désolant, je cite.
Danger grave et imminent pour les salariés de General Electric à Belfort.
Ils ont lancé hier une procédure de signalement après la mort de trois d'entre eux ces trois dernières semaines, deux crises cardiaques et un accident vasculaire cérébral, alors que l'entreprise est engagée dans un vaste plan social qui doit aboutir à la suppression de plus d'un millier d'emplois en France. Francis Fontana, représentant du syndicat Sud chez General Electric Belfort.
Je ne serai pas en capacité de faire ce lien direct. Je me réfère également à des recherches très sérieuses qui ont été effectuées sur ces questions-là et qui montrent que les questions d'emploi en général, de crainte sur l'emploi, qu'on ait un emploi, qu'on soit en passe de le perdre ou qu'on l'ait déjà perdu, il y avait une corrélation avec la santé des salariés et les risques notamment cardiovasculaires et cérébraux. C'est alarmant, c'est alertant. Je pose la question, si ça n'alerte pas, qu'est-ce qui peut alerter ?
Francis Fontana, délégué syndical Sud, au micro RTL de Yannick Holland. Toujours aucune nouvelle de Steve, le jeune homme disparu depuis un mois lors de la fête de la musique à Nantes. Ses proches vont organiser une chaîne humaine cet après-midi, là où il a été aperçu pour la dernière fois, avant de tomber vraisemblablement dans la Loire, comme une quinzaine de personnes lors d'une charge de la police interpellée par la maire de Nantes. À ce sujet, le ministre de l'Intérieur a rappelé que deux enquêtes judiciaires sont en cours. Pour la première fois depuis le début de l'été, la journée est classée rouge dans toute la France, dans le sens des départs, orange pour les retours et ça bouchonne déjà dans la vallée du Rhône, Pierre Collat.
Oui, il faut déjà compter 30 minutes de plus entre Lyon Sud et Orange. Vous mettez actuellement un peu plus de 2 heures au lieu d'une heure 30 en temps normal. Vous rencontrez des perturbations dès la sortie de Lyon sur la 7 entre Solèze et Vienne-Nord. Ensuite, plus au sud, le trafic est très chargé autour de Valence. Il y a déjà des ralentissements avant le péage de Valence Sud. Cela ne va pas s'arranger, le trafic devrait être très chargé sur cet axe jusqu'à 19h ce soir. La vitesse est déjà limitée à 110 km/h pour éviter la formation d'embouteillages dans une grande partie de la vallée du Rhône. Et puis attention à cet accident en sortant de Toulouse en direction du sud sur l'A64. C'est après la sortie 38 Le Chapitre. Deux voitures sont impliquées sur les deux voies les plus à droite.
Radio Guidage signé Pierre Collat pour RTL.
Il y a 50 ans déjà, Alexandre, les premiers pas de l'homme sur la Lune.
Un événement qui a marqué toute une génération et qui continue de faire rêver, alors que de nombreux pays, États-Unis, Chine, Russie, Japon, envisagent d'y renvoyer leurs astronautes. Claudie Aigneret, première européenne à être allée dans l'espace, se souvient de ce grand pas pour l'humanité. C'était le 20 juillet 1969.
J'ai un souvenir précis, effectivement, de cette nuit de juillet, où j'avais 12 ans et où j'étais en vacances, regardant avec un poste de télévision à l'extérieur, et d'être dans un sentiment de quelque chose d'un petit peu d'irréel qui était en train de se passer. Ça m'a peut-être donné cette étincelle dans une tête d'enfant de se dire que des choses qu'on pense pas possibles un jour deviennent possibles. Je crois que ça c'est important pour donner un déclic, pour se dire bon, on peut avoir l'audace de tenter quelque chose. Et le jour où l'opportunité s'en est offerte, j'étais rhumatologue à l'hôpital Cochin et j'ai eu cet appel à candidature du Centre National d'Études Spatiales proposant une sélection pour être astronaute scientifique, ni une ni deux, effectivement, là je me suis dit, c'est pour moi, je tente. Et cette audace, la façon de oser vivre cette aventure-là, c'était cette mémoire d'enfant qui me l'a donnée.
Que des bons souvenirs. Claudie Aigneret au micro RTL de Sophie Jousselin.
On revivra cette page d'histoire évidemment dans l'espace tout à l'heure avec notre invité à 8h50. C'est le rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace et auteur aussi du Premier Pas sur la Lune. Un livre, c'est Philippe Hénarejos qui sera notre invité tout à l'heure. On se replongera dans le passé et dans le futur. Quand est-ce qu'on va y retourner concrètement? Il nous dira tout. Il sera notre invité tout à l'heure. RTL.fr pour toute l'actualité quand vous le voulez. Et puis Alexandre revient bien sûr vous informer à 9h du matin.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.